Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 27 juin 2019 et vous écoutez un épisode spécial de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et pour cet épisode très spécial, je suis accompagnée de deux invités de marque. À ma gauche, le spécialiste du game design, celui qui décortique les jeux et leurs mécaniques, qui nous livre chaque mois ses analyses pointues, le Pionfesseur. Bonjour Pionfesseur.
Salut, salut.
À ma droite, il revient dans le podcast pour les plus nostalgiques de nos auditeurs. Il s'y était engagé lors de l'épisode 100 et on l'avait cru disparu. Mais non, ce soir, il honore sa promesse, Olivier de Proxy Jeux. Bonsoir Olivier.
Bonjour, bonsoir.
Pour cet épisode spécial, hein, vous l'avez compris, nous allons revenir ensemble sur le jeu Keyforge, qui avait donné lieu à quelques passes d'armes pendant l'épisode 100, diffusé en octobre dernier. Proxy Jeux se livre donc à un peu de démagogie, ou pas, et vous propose ce que l'on appelle un clash. Pourtant, je ne vous la jouerai pas à la Paul Amar en sortant les gants de boxe. De toute façon, on enregistre via Discord et pas dans notre salle Race for the Galaxy. Je vais essayer de mener ce débat en respectant le temps de parole de mes deux invités, en bannissant les insultes et coups bas. Je serai donc la garante d'une certaine bienveillance. Ce soir, on ne reviendra pas sur les règles de Keyforge. Pour cela, je vous renvoie à la chronique jeu du mois de septembre 2018, dans laquelle Cyrus faisait une présentation détaillée de ce jeu. On rappellera juste que Keyforge est un jeu de cartes créé par Richard Garfield, le père de Magic, édité en France par Edge. La boîte de base est vendue environ 36€, tandis que chaque deck de cartes vaut environ 9€. Donc pour démarrer cette revue enflammée de Keyforge, je vais vous demander, mes chers amis, en quelques mots, votre avis à froid ou à chaud sur le jeu. Alors Olivier.
Keyforge, j'ai acheté 4 decks et je vais les donner. J'ai joué 3 fois et je vais les donner.
Même pas les revendre, les donner carrément. Tu veux plus les voir.
Non, ça, je veux pas me faire d'ennemis si tu veux. Je veux juste.
Bon, et ton avis à toi, Pionfesseur, en quelques mots?
Moi j'avais déjà été pas mal hypé avant la sortie du jeu. Parce que le concept était vachement original et finalement j'aime beaucoup y jouer, mais je suis pas non plus au point d'acheter 60 decks quoi, tu vois. J'ai acheté que 4 decks, mais ça suffit pour que je m'amuse bien avec quoi.
D'accord.
Sans compter les deux tutoriels là, tu sais, il y a 2 decks de base dans la boîte de base qui sont pas vraiment des decks parce qu'il y a pas de rares dedans, tu vois. Donc
oui, il y a toujours 2 decks d'initiation en fait qui sont les communs à tout le monde, et normalement on a aussi 2 decks uniques dans la boîte de base.
Je peux t'interrompre tout de suite, parce que c'est ma spécialité. Tu dis il n'y a pas de rares, donc c'est pas des decks.
Non, il n'y a pas de rares, donc ils sont moins forts que les autres, quoi, c'est tout.
Ouais, mais
ils sont supposés moins forts.
C'est un peu le problème de Keyforge, c'est que tu as des jeux qui sont forts, tu as des jeux qui sont pas forts, et... Mais bon,
voilà,
on va en parler.
Attends. Ah oui, là, on va déraper vers d'autres... On va essayer quand même d'avoir un peu de construction dans
cet épisode.
Donc d'abord, on va revenir sur avant que le jeu ne sorte. Hein. Ce premier point qu'on va aborder ensemble, c'est toute cette hype dont tu as parlé, puis on fait ça parce que tu as dit que tu avais été hypé avant la sortie du jeu. Donc on va revenir sur cette hype et aussi sur le concept de deck unique qui a été largement mis en avant, en tout cas avant la sortie du jeu, pour peut-être appâter un peu le chaland. Donc toi, Pionfesseur, reviens sur ta hype quand tu as entendu parler du jeu.
Moi, ce qui m'avait pas mal hypé, parce que j'aime bien les concepts originaux dans les jeux de société, puisque voilà, maintenant, à force, quand on me dit que c'est un jeu de pose d'ouvrier, ça va pas m'intéresser parce que je sais qu'il en existe 50 autres, voire même 500 autres, quoi. Mais là, quand je vois un truc où on me dit « Ah, ça va être des decks uniques », c'est-à-dire... Enfin, on va pas leur résumer le principe de deck unique, mais le simple fait que ce soit une idée originale, ça m'a plu. Et pour le coup, je connais pas trop de... Enfin, zéro jeu qui avait fait un truc similaire avant. Donc je me suis dit que ça allait procurer une nouvelle sensation de game design. Après, moi, j'ai fait partie de la hype avant la sortie du jeu, où effectivement, on avait imprimé les cartes avec Cyrus. Il y avait des gens qui avaient partagé des decks en ligne. Je sais pas comment ils avaient récupéré ces decks-là. C'était peut-être des decks de preview,
journalistes. De mémoire, c'était officiel. Hein, c'était permis. Enfin, c'était pas du bidouillage. Hein, je crois que c'était donné vraiment pour que les gens se fassent une idée, une première idée.
Ah voilà, ouais, d'accord. C'était des entre guillemets faux decks, quoi, en fait.
Peut-être que c'était les decks d'initiation. Je me souviens plus, mais je pense aussi que ça faisait
partie
d'une campagne marketing. Hein, c'est un très bon moyen pour attirer les gens.
C'était pas des vrais jeux parce qu'il y avait pas de rares.
non, pour le coup, ceux-là, il y avait des rares, donc c'était pas des decks d'initiation.
Non. Donc c'était plutôt pour laisser un peu entrevoir le potentiel du jeu.
ils ont genre sacrifié 8 decks en disant bon bah ceux-là on les donne public quoi.
Ouais, sur 1 850 000 000 sacrifier 8 decks c'est pas, bon, pas la merde. Hein.
Et toi Olivier, t'étais hypé toi?
Non. Justement j'ai regardé un peu en spectateur externe tous les gens. En fait il y a quand même une certaine, à chaque fois qu'il y a un Kickstarter, c'était Wingspan il n'y a pas longtemps, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est on s'enflamme. On s'enflamme et le soufflet mais retombe mais extrêmement vite. C'est-à-dire, il y a plus, en fait, je pense que sur Keyforge, on en a plus parlé avant qu'après le lancement. Après, on en a parlé encore, il y a un groupe Facebook, il y a plein de choses. Mais, en fait, le soufflet est retombé. Enfin, t'as combien de decks, toi, professeur?
Bah, si on compte pas les deux de base, de tuto, là, j'en ai 4.
Et du coup, tu dis c'est une nouveauté de game design, parce qu'en fait, ils sont tous uniques, mais quelle différence tu fais entre j'ai 4 decks à moi ou j'ai 4 decks que je partage avec tous les autres? C'est pas un problème de game design, c'est plutôt un problème d'ego.
Non, mais après, c'est un plaisir que tu avais déjà dans les jeux de cartes à collectionner, c'est-à-dire comme quand tu ouvrais des boosters avec Magic, tu vois, c'est le plaisir de l'aléatoire et de te dire, voilà, mon booster que j'ouvre, peut-être qu'il y a des rares dedans, peut-être que ça va, enfin c'est un peu un plaisir comme quand tu joues au jackpot ou à des trucs comme ça, enfin tu vois ce que je veux dire.
Ou quand tu ouvres des albums Panini.
Ouais, voilà.
Moi, ça m'a fait penser un peu à ça, quand tu ouvrais les sachets Panini et que tu espérais tomber sur la bonne image.
Le principe de Magic, c'était justement de faire des Panini jouables en fait. On le disait avec Cyrus dans l'épisode sur Magic de Sortons le grand jeu justement.
Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le nom de l'auteur aussi. C'est-à-dire que Garfield.
On l'a cité quand même, mais c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est pas aussi un auteur qui a une énorme hype de toute façon?
C'est ça. Et je pense qu'on attendait quelque chose d'incroyable parce qu'il a lancé Magic, parce qu'il a, à l'image de Vaccarino qui a créé Dominion, il a été une des rares personnes qui a vraiment amené quelque chose. Maintenant, je pense qu'il l'a fait en 93. Après, on en parlera, mais je suis pas sûr que ce soit aussi brillant que ce qu'il a fait en 93.
Après, j'ai envie de te dire, la même année, il y a Artifact qui est sorti, la même année que Keyforge. Donc, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et Artifact, c'est un jeu qui a complètement bidé à côté, quoi. Alors, c'était un jeu vidéo, hein, pour le coup, mais.
Mais pourquoi ?
Un jeu vidéo de cartes à collectionner. Oui. Pourtant, c'était Valve derrière, tu vois. Bah parce que le jeu, je pense que parce que le jeu était pas bon quoi.
Oui, tu veux dire mais je reconnais le coup marketing, le fait d'avoir donné envie de pouvoir de c'est un peu comme un dealer quoi, tu donnes la première dose, tu vois, gratuitement et puis après tu fais venir les gens au truc, c'est bien. Point de vue marketing, je trouve ça excellent. Mais je trouve que c'est juste artificiel.
Après, pour revenir à ce que tu disais sur les hypes, je suis d'accord avec toi quand tu dis que effectivement il y a des jeux comme Wingspan qui font un surbuzz alors qu'au final le jeu il est pas, il mérite pas d'être dans le top 100 BGG par exemple. Mais je trouve que pour le coup Wingspan c'est un jeu qui a rien apporté, tu vois.
Ah, des œufs quoi. des jolis, le plastique, tu vois, des jolis de nid. Une tour radée en termes de...
Non, je pense que Wingspan... Wingspan est un jeu qui fonctionne très bien et je pense que ses raisons ne sont pas que liées au jeu lui-même. Je pense que c'est beaucoup de choses qui entourent le jeu, qui ne sont pas vraiment de la mécanique en lui-même du jeu. Parce que le jeu est effectivement en lui-même pas original. Je pense que ce qui fonctionne énormément, c'est un mélange entre le thème, l'autrice... Tout un contexte qui est autour du jeu qui a participé énormément à son succès. Mais qui n'est pas lié à la mécanique même du jeu.
Puis en fait ça, tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce qui forge d'un autre jeu de cartes à collectionner ou pas, et qu'est-ce qui en fait quelque chose de vraiment intéressant et vraiment qui change et qui a sa place au panthéon des jeux de cartes.
Bah pour moi, il y a eu deux choses. Donc il y a le concept de deck unique, ça on l'a déjà dit, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, l'idée c'est que la loterie elle va être un peu différente. C'est pas j'ouvre mes boosters pour ensuite me fabriquer un deck, c'est j'ouvre mon deck directement et je peux jouer tout de suite avec quoi. Et du coup ça rend t'as jeu plus rapide, t'as pas à trop préparer ton deck avant de jouer, etc. Donc c'est plus accessible aussi, je pense, pour les néophytes. Et le deuxième truc, mais je sais pas si tu veux qu'on rentre dedans tout de suite, c'est la mécanique principale du jeu avec les factions, etc. Je sais pas si on rentre tout de suite.
On en parlera peut-être un peu après.
Non, je peux juste répondre qu'en fait, il y a des paquets précontrôlés aussi à Magic, tu peux les acheter et avoir la même sensation. Et en plus de ça, c'est des paquets qui sont faits pour te faire découvrir un certain thème ou une certaine mécanique de Magic. Du coup, ça me semble plus adapté que d'avoir un deck aléatoire et de ne pas savoir ce que tu vas avoir dedans.
Oui, c'est vrai. Mais après, comme dit, c'est le côté unique qui donne l'impression de te dire, ah bah ça, c'est mon deck. Il y a que moi qui l'a dans le monde.
C'est mon mien.
C'est assez plaisant, je trouve.
Je valide, je comprends.
Mais est-ce que vous pensez pas aussi que c'est lié à une contrainte qui est le fait que les gens ont moins le temps de jouer, enfin moins de temps à passer, qui a arrivé aussi à cette solution de choisir l'idée d'un deck unique qui est prêt à jouer et qu'on peut prendre en main tout de suite. Est-ce que c'est la contrainte qui a pas amené à cette solution plutôt que la solution qui est apparue d'elle-même et qui en fait répond à un besoin des joueurs d'aujourd'hui qui n'ont pas le temps de passer, qui veulent pas forcément non plus dépenser des fortunes en achetant 150 000 cartes pour construire des decks dans lesquels ils passeront 150 000 heures.
Tu poses deux questions. La première question, c'est est-ce qu'on veut faire du deck building. La deuxième question, c'est est-ce qu'on veut dépenser de l'argent. Pour la première question, c'est est-ce qu'on veut faire du deck building. Moi, non. Je joue Hearthstone, je vais sur HS Replay. Et je vais voir les decks qui m'intéressent, je les télécharge. En plus, c'est super facile, on fait un copier-coller et ça marche. Et après, je joue. Deuxième question, est-ce qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent? Moi, la question, c'est si on veut faire le tour de Keyforge, si on veut avoir la chance de pouvoir jouer toutes les familles, si on veut avoir la chance de jouer toutes les mécaniques, combien il faut de decks?
Je pense que tu investis quand même beaucoup moins d'argent que dans Magic si tu veux faire le tour de Keyforge.
Je sais pas.
Que si tu veux faire le tour de Magic, quoi. Parce que Magic. Tu veux vraiment deck build pour de vrai en tournoi et tout, faut que t'achètes des rares et ça coûte.
Mais j'imagine que dans Keyforge, t'as la même. Tu vas avoir ceux qui veulent faire des tournois et qui vont vraiment y jouer énormément vont avoir tendance à acheter plusieurs decks, un grand nombre de decks pour avoir finalement toutes les configurations possibles de factions et peut-être aussi chasser les cartes rares dont on a déjà un peu parlé. Mais tu peux aussi avoir des gens qui vont jouer ponctuellement. Comme moi, c'est le cas, j'y joue, tu vois, nous on fait pas 3-4 parties par mois. Donc là, tu peux te contenter d'avoir quelques decks pour tu peux prendre du plaisir quand même, parce qu'après, il y a quand même aussi l'apprentissage, connaître les cartes, les appréhender, même si tu les as pas choisies, il y a quand même un plaisir là-dedans.
C'est même plus facile à appréhender Keyforge, je trouve, que Magic. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est à l'heure actuelle et que plus tard, ils feront des mécaniques plus compliquées dans Keyforge. Ça, on ne sait pas encore.
Mais du coup, quand moi j'ai un deck qui est dur à jouer, ou si j'ai un deck où j'ai pas les 4 chevaliers de je sais pas quoi, ou la carte super cheatée de je sais pas quoi, c'est plus facile, c'est moins gratifiant. On parle de loterie, on parle d'ouverture de paquet, en fin de compte, j'ai pas ma rare. Enfin, j'ai pas, je reprends l'analogie avec Hearthstone, j'ai pas ma dorée. Donc si j'ai pas ma dorée, tant pis pour moi.
Alors après, effectivement, il y a, je pense, des decks qui sont de manière inhérente plus fortes que d'autres, mais je trouve que ce qui a été bien et malin en termes de game design, c'est que il y a beaucoup de cartes qui sont faites juste pour contrer certaines stratégies de manière assez violente, c'est vraiment je vais détruire toutes les créatures blessées, des trucs comme ça. Ça fait que
tu peux toujours t'en sortir, deviennent...
ouais, mais surtout il y a des decks qui deviennent des gros contre d'autres, en fait. Je pense,
moi, je pense qu'effectivement il y a peut-être des decks qui peuvent paraître plus ou moins forts. Mais qu'en réalité, je pense qu'un deck donné sera peut-être faible face à une autre combinaison, mais peut être fort face. Enfin, il y a un aspect aussi, il y a l'aléatoire dans le deck que tu récupères, mais aussi le deck du joueur contre qui tu vas jouer. Moi, en ayant plusieurs decks, il y a quand même, tu vois qu'il y a certains trucs qui ne passent pas selon des decks qui ont l'air très forts et qui ne passeront pas contre un autre type de deck, parce que comme le dit Professeur, il y a quand même beaucoup de moyens de contrer ton adversaire. En lui volant de l'ambre, en l'empêchant, en lui tuant ses créatures, et en volant, t'as pas mal de solutions d'alternatives.
C'est pour ça que les formats de tournois les plus répandus, c'est tu joues 3 decks, et du coup, tu fais un BO5, donc le meilleur des 5 manches, et quand un deck gagne, tu le valides, et ensuite tu peux jouer que les autres. Donc du coup, tu peux contrer les decks adverses, etc., une fois que t'as vu ce que l'autre y jouait, quoi.
Je pense que ça marche en tournoi, mais après, pour des Quidam, enfin, il faut vraiment avoir des gens qui jouent à Keyforge et avoir une communauté qui joue à Keyforge. Et si tu as seulement 3-4 decks comme on a, je sais pas combien tu en as, toi, Polgara, mais j'ai l'impression que bah, si tu as des decks qui contre d'autres decks que tu joues pas contre, ou que t'as pas, non, même, que t'as même pas, que t'as même pas eu toi, ça marche pas, quoi. Et ça m'amène à dire que, enfin, les cartes tech, on ne peut pas les retirer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire. Donc, les cartes tech qui sont faites pour contrer vraiment d'autres decks, on ne peut pas les retirer. On ne peut pas, à ma connaissance, mais peut-être que tu vas me tromper, on ne peut pas dire, bah voilà, t'as 60, ou je ne sais même plus combien il y a de cartes dans le jeu, 30, 40?
36.
36, ouais.
36. Mais du coup, tu pourrais dire, bah, on joue avec 33 cartes, vous en retirez 3. Donc les cartes
Non.
qui sont typiquement faites pour contrer d'autres jeux, on les retire et puis voilà, quoi. Mais c'est pas le cas.
Non.
Pas le
Et
cas.
tu pourrais imaginer un format de tournoi comme ça qui émerge un jour, hein.
Oui, alors on a de grandes discussions sur est-ce que un jeu doit. Enfin, le jeu doit être jouable de suite, quoi.
Bah,
Alors
mais j'ai envie de
attention,
te dire,
attention.
Magic aussi, t'as plein de formats de tournoi, hein. T'en as qui jouent en draft, t'en as qui jouent en paysan, où tu n'as pas le droit de jouer des rares, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, mais c'est ce que pourra jamais faire Keyforge.
Pourquoi?
Parce que tu peux pas prendre que les communes, tu dois avoir ton deck et que ton deck il est fixé à la base.
Oui, non, mais tu peux imaginer d'autres formats. Comme tu
Ouais.
disais, tu pourrais dire, bah, on joue chacun notre deck, mais sur les 30 cartes, tu choisis 6 cartes qui seront un side comme à Magic et que tu pourras remettre dans ton deck entre deux manches ou des trucs comme ça,
Ouais,
enfin.
sauf que là tu perds l'essence du jeu qui est bah t'as 36 cartes qui sont données aléatoirement, il faut faire avec. Alors, juste. Ça me fait penser, excusez-moi, c'était pas dans le conducteur, mais je vais citer le grand philosophe qui a dit le paquet scellé et le jeu de ligue ne furent jamais totalement au point, mais ces formats étaient uniques en leur genre et les maîtrises demandaient une bonne dose de talent. Bien que j'adore les formats construits et le draft, je regrette souvent de ne pas pouvoir jouer les cartes qui ne sont pas jugées suffisamment efficaces pour ces formats. Alors qu'en paquet scellé ou limité, elles deviennent souvent intéressantes. Notamment parce que vous n'avez pas accès aux cartes les plus cotées. J'éprouve une satisfaction certaine à gagner des parties en utilisant des cartes que les gens ont ignorées ou dédaignées. C'est Garfield. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler maintenant. Ce qu'il dit, c'est j'éprouve une satisfaction certaine à gagner des parties en utilisant des cartes que les gens ont ignorées ou dédaignées. Bon, ça, c'est l'esprit de la loi, quoi. Et du coup, j'ai pas l'impression que dans Keyforge ce soit comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi. Comme je disais, les quatre chevaliers, les machins, les trucs, et on l'a vu avec le nerf qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, il y a des decks qui sont bankable, et on va se présenter à des tournois avec, on joue avec, il y a des gens qui achètent des trucs, ces paquets de cartes. Et puis, bah, t'as des fois, bah, t'as des decks qui sont moyens, quoi. Et t'as pas de plaisir à jouer avec des decks moyens.
Ben moi je suis pas tout à franchement je suis pas d'accord.
Et ben moi, j'ai pas eu plaisir à jouer avec des decks moyens.
Mais tu peux pas... comment tu peux être sûr que si t'as fait que deux ou trois parties avec un deck, tu peux pas être sûr qu'il est moyen. Faut que tu fasses
Non,
plus
non.
de configuration.
Bien sûr, bien sûr. Je te suis convaincu.
Moi par exemple, nous on a à peu près 12-15 decks. Et ce que moi je fais quand je joue, c'est que je tire un deck au hasard. Donc c'est vraiment, tu vois, du hasard. Hein. Et je dis, je vois, et je me dis, tiens, je vois ce que ça va donner. Et après, comme je note les decks contre lesquels, je pourrais même, si j'avais vraiment un peu de, comment dire, un peu de maladie mentale, je pourrais aller faire mes stats de quel deck a gagné contre tel deck, et tu vois. Et après, aller regarder quelle faction il y avait dans ce deck-là pour aller voir quelle faction. Et là, ça c'est presque un peu, c'est presque enivrant comme façon de concevoir les choses.
Et est-ce qu'à aucun moment vous laissez de côté certains decks ou alors vous dites, oh non, je suis tombé sur celui-là, je vais encore me faire latter?
Non, il y a mon fils qui fait ça parce que lui, il a décidé qu'il y avait un deck qui était vraiment très très bon et il veut toujours jouer avec. Mais moi, non, moi, je me plie vraiment à cette loterie. Donc, je tire un deck au hasard et je vois ce que ça donne. Et c'est, franchement, c'est pas désagréable. Donc, et je me dis, tiens, comment je vais m'en sortir maintenant?
D'ailleurs, l'équivalent du format draft à Magic en version Keyforge, c'est tu prends un paquet, tu l'ouvres et c'est ton paquet pour le tournoi, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ce que je décris.
Et aussi pour l'anecdote, un format de tournoi rigolo qui a été proposé sur Board Game Geek, je ne sais pas si des gens ont vraiment joué avec ça, mais qui marcherait que avec Keyforge, c'est tu viens et tu donnes ton deck à l'adversaire. Donc tu dois te débrouiller pour lui donner le deck le plus pourri qui soit. Et lui, il fait pareil. Et franchement, c'est un truc qui pourrait pas marcher avec Magic, puisque Magic, bah, si tu veux faire un deck pourri, tu lui mets pas de terrain et le jeu marche juste pas, quoi. Avec Keyforge, tu peux faire ça. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Tu vois, les gens arrivent à partir de la mécanique de deck unique à faire des formats de tournoi un peu originaux.
Tu veux qu'on parle de cette particularité de Keyforge qui est de ne pas avoir de mana ou de terrain ou de cristaux?
Ouais, j'aimerais bien.
Donc maintenant, on va rentrer plus sur la mécanique du jeu en lui-même, hein. Plus vraiment sur les particularités qu'on y trouve. Donc on va parler, voilà, on commence par cette absence de mana, mais toujours en comparant Keyforge à Magic. Je sais pas si c'est toujours la bonne chose à faire d'ailleurs.
Ah non, on peut continuer sur la comparaison avec Hearthstone, parce que pour moi, si tu veux, c'est une excellente chose, parce que on avait parfois la loterie à Magic, c'était de dire ok, bah, j'ai pas mon terrain, donc je peux rien faire, donc je suis baisé. Quand on joue à certains jeux où à l'extrême, on va choisir, comme dans Source of Galaxy, on va choisir ses cartes, on va balancer pour payer une carte, voilà, on a complètement le maîtrise sur le coût de la carte. Et pour moi, Hearthstone, c'est un médian, c'est-à-dire les cartes qui sont plus faibles, qui coûtent moins de cristaux, et de toute façon, on sait qu'au premier tour, on n'en aura qu'un, au deuxième tour, on en aura deux, etc. Donc c'est un équilibrage, et cet équilibrage, il est aussi bon que on peut poser autant de cartes qu'on veut, quoi.
Moi, je peux... Enfin, franchement, Hearthstone, j'ai jamais accroché au jeu, donc...
Moi, pour le coup, j'ai beaucoup joué à Hearthstone, et en tournoi et tout même, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et pour le coup, dans Hearthstone, en fait, ce qui est conservé, c'est juste le principe de courbe de mana. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dans Magic, tu dois avoir des decks qui suivent la courbe de mana, donc faire en sorte que t'aies pas trop de... Enfin, que t'aies pas que des créatures qui coûtent 6, parce que sinon, tu pourras pas aller... Pendant 5 tours, tu fais rien et tu te fais éclater, quoi. Et moi, ce que j'aimais bien dans Keyforge, du coup, c'est que j'ai vraiment le sentiment que quasiment tous les jeux de cartes à collectionner jouent sur des principes de mana, enfin, ou dérivés, quoi. C'est-à-dire que Hearthstone, pour moi, c'est un dérivé du principe de mana de Magic, puisque ça garde le principe de courbe de mana, quoi.
C'est ça, c'est un équilibrage du système de base. Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Et du coup, mais du coup, voilà, c'est tout dérivé de Magic. Il n'y a jamais eu trop de trucs un peu original, un peu différents, à part peut-être Yu-Gi-Oh! Qui joue différemment.
Bah c'est pareil, tu peux poser tout ce que tu veux, Yu-Gi-Oh! Non ?
Presque. C'est, tu peux...
Mais Keyforge ne serait pas aussi original, pas plus original que Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! T'as quand même pas mal de limites, hein. C'est-à-dire que t'as le droit de jouer qu'un certain nombre de créatures par tour, je crois.
À Keyforge, c'est seulement les mêmes familles, je t'écoute.
Et aussi, t'as des créatures qui ont besoin que tu sacrifies d'autres créatures pour avoir le droit de les jouer dans Yu-Gi-Oh! Mais toujours est-il que voilà, dans Keyforge. Donc Keyforge, j'aime beaucoup la mécanique de faction. Donc t'as le droit de jouer une faction et d'activer cette faction par tour. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette mécanique, c'est surtout le fait que la faction que tu choisis, tu peux jouer cette faction de ta main, mais aussi et surtout, tu peux activer que cette faction sur ton plateau. Et du coup, ça va t'amener dans la partie à des choix en mode, est-ce que j'active des mecs de mon plateau quitte à ne rien jouer des fois, ou est-ce que je vais juste jouer des cartes pour pouvoir repiocher plus vite. Et j'active personne, mais du coup, je perds du tempo. Donc, c'est vraiment des principes qu'on avait déjà dans les jeux de cartes à collectionner. Donc, c'est le card advantage, le tempo, les trucs comme ça. Sauf que là, ça se traduit vraiment très différemment parce que les cartes n'ont pas de coût, du coup. Donc, elles sont théoriquement tout aussi fortes, théoriquement. Tu recomplètes ta main toujours à 6. Donc, du coup, tu as envie de flusher ta main. Donc, le card advantage, il marche pas de la même manière. Voilà, plein de trucs comme ça qui peuvent un peu dérouter les joueurs de cartes à collectionner et qui du coup je pense apportent des nouveaux trucs, quoi. Mais je te dis, moi ce qui me plaît le plus, c'est le fait que des fois tu vas juste faire un tour où t'actives juste des créatures sur ton terrain, mais tu vas rien jouer, parce que c'est important au niveau du tempo de faire ça à ce moment là et j'adore ce genre de choix.
Je te conseille de jouer à London, alors.
Le Wallace,
un jeu de plateau de Wallace,
ouais.
Où il y a un rythme, bah... aussi, où parfois tu prépares tes paquets puis après tu les dépiles. C'est un jeu à rythme, c'est aussi un jeu à rythme.
Dans London, pour le coup, c'est parce que tu as une pénalité à chaque fois que tu actives tes trucs, en fait. Tu sais, tu gagnes des pauvres à chaque fois que tu actives.
La contrainte, c'est ça qui est bien.
Oui, bah, voilà, ouais. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien les jeux à tempo comme ça, où il faut essayer de trouver le bon moment pour faire un truc.
Ok, je suis assez d'accord avec ça, je peux pas, je vais pas tester.
On passe sur le point suivant.
Ouais.
Alors, donc les factions, on en a parlé, c'était ça que tu voulais développer. Donc maintenant, on peut vraiment partir sur pas sur le fond du jeu, mais plutôt sur sa forme, sur ce qui a pu être reproché par certaines parties de la communauté des joueurs, sur d'abord les erreurs de traduction sur certaines cartes, donc ça c'est pour la VF, et puis aussi le fait qu'il n'y avait pas les règles complètes dans la boîte de base, qu'il y avait juste un petit feuillet explicatif assez sommaire et qu'on pouvait après télécharger les règles complètes sur le site. Donc là-dessus, est-ce que pour vous c'était un avantage ou un inconvénient du jeu? Est-ce que c'est des choses qui vous ont gêné ou pas?
Bah, c'est un peu embêtant de ne pas jouer avec les bonnes règles, mais après, y a, je ne sais pas combien il y a de centaines de cartes. En plus, c'est FFG qui produit ça.
Ouais.
C'est un peu dommage. Enfin, c'est quand même des experts dans les jeux de cartes, c'est quand même des experts dans le. Dans la traduction, avec Age, voilà quoi. On peut pas dire que, enfin, c'est du travail. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et maintenant, est-ce que ça a un impact sur la jouabilité, sur le jeu en lui-même? Je ne sais pas. Mais on s'attend avec une boîte comme ça, à ce que ça arrive pas.
Bon, pour avoir discuté avec Stéphane Bogart de Edge hein, sur ce sujet-là. Bon, lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est que au départ, il ne devait pas sortir en français. La décision a été prise très très rapidement et on leur a demandé de traduire toutes les cartes en un délai ultra court. En gros, on les a prévenus au mois d'août. C'est pas la période la plus favorable en termes de ressources. Enfin, les gens, voilà, avec les congés, c'était compliqué. Et qu'en plus, ils ont fait certaines des traductions sans avoir les visuels. Donc, il y avait des termes, par exemple, pour lesquels ça compliquait. Je pense les noms des personnages, ce genre de choses, ils ne savaient pas si c'était des masculins, des féminins, comment le traduire, ça n'a pas aidé. Donc après, il a expliqué hein, que pourtant ils avaient cette habitude hein, de traduire des cartes, mais que là, ça a été des circonstances particulières qui ont probablement été la cause aussi de ces erreurs.
Bon, là pareil, hein, je ne peux pas le défendre, hein, évidemment, que le fait qu'il y ait des erreurs de traduction, je trouve ça insupportable. Mais en particulier, c'est le fait qu'il y a une erreur quand même, je trouve vraiment grave, c'est que chaque deck a une carte résumée qui te résume toutes les cartes que tu as dans ton paquet. Et en fait, il y a une erreur au niveau des logos qui sont associés à chaque faction dans la version française. Donc des fois, en fait, tes cartes indomptées, en fait, c'est pas celle-ci, quoi.
Oui.
C'est inversé, quoi. Donc du coup, ça, c'est super perturbant quand tu joues, parce qu'il faut toujours que tu refasses la petite gymnastique mentale pour dire « Ah non, putain, merde, mes logos, en fait, ils sont là. » Je trouve ça super chiant. Et surtout, le fait qu'il y ait des erreurs sur les cartes, ça, c'est pareil. Alors, ok, je suis d'accord qu'ils ont des excuses, les éditeurs, on se doute bien, mais en même temps, on se doute bien qu'ils font pas exprès de faire des erreurs de traduction, donc c'est débile. Le résultat, il est juste mauvais.
Ouais, on en a gros.
Je suis d'accord, c'est juste pour expliquer, apporter un peu des éléments de contexte.
Ah
voilà.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais c'est
l'arbitre.
Tu vois, on peut accepter de ça d'un petit éditeur parce que il a pas les moyens, il est tout seul, plein de choses. Là, on parle quand même de grosses pointures de l'industrie, donc c'est dommage. C'est dommage.
Puis même, j'ai envie de dire, même un petit éditeur, c'est si on veut être vraiment critique, on peut souligner que avoir des erreurs dans le jeu, c'est chiant. Voilà, c'est tout.
Bah, c'est plus le jeu. Si tu changes les règles, enfin, si tu changes la façon dont tu joues ta carte, c'est un autre jeu. Ouais, bon, après, c'est des cartes tirées au hasard, donc on s'en prend fois peu.
Avec un peu de chance, tu les as pas dans tes decks.
Ouais, c'est ça. Puis ah, même, de toute façon.
Il y en a quand même beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 avec des erreurs, quoi. C'est quand même, je trouve, beaucoup. Hein.
Ouais. Et concernant les règles, moi, ça me choque pas forcément. Après, on est à l'ère du digital ou du numérique. Et après, on a tous. On peut aller voir. Il y a même. Je ne sais plus comment ils s'appellent, qui font justement un Kickstarter, qui ont fait plusieurs Kickstarter et qui se lancent dans la présentation de règles numériques.
Dized.
Ouais, voilà. Donc du coup, voilà, c'est dans l'air du temps de ne pas avoir, en plus de ça, autant de règles qu'il y a de jeux, de boîtes de jeux. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Sauf peut-être pour là il y a eu des errata ou des erratum qui sont tombés, il y a eu des nerfs et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir aller chercher quelque part les listes des nerfs et puis se souvenir que ta carte bah en fait voilà elle est différente et bon, ça c'est le propre du jeu de cartes papier mais c'est problématique.
Moi pour les règles ça aurait été un jeu de société, ça m'aurait saoulé effectivement de devoir chercher sur internet les règles ensuite, mais pour un jeu de cartes à collectionner ça me gêne moins parce que pour Magic c'était pareil en fait, quand t'achètes un deck de Magic t'as jamais toutes les règles, c'est toujours au final un résumé.
Ah non,
parce que les règles de Magic elles sont tellement touffues que voilà quoi.
Bah, enfin, bon, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans que j'ai pas joué à Magic, mais il y avait la règle dans tous les paquets de base.
Ouais, mais c'est pas la vraie règle. C'est pas la règle
exhaustive.
Complète,
c'est pas les règles exhaustives.
Ouais.
Okay, de tous les points.
J'avais un classeur quelque part avec l'explication de toutes les cartes et de ce qu'elles faisaient, et puis avec les interceptions et toutes les tous les tempos que tu pouvais avoir. Quand est-ce que ça s'appliquait, quand est-ce que ça s'appliquait pas. Ok, si tu vas là-dedans, effectivement, il faut un pavé pour pouvoir, il y a tellement de cartes. Mais du coup, tu avais quand même, dans les boîtes de base, tu avais quand même à chaque fois les règles. Alors que là, voilà, t'es pas obligé.
Bah,
Non, mais je crois qu'on
franchement,
est d'accord sur ce jeu.
pour Keyforge, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que dans la boîte de base, t'as les règles pour jouer, voilà, tu peux jouer. Mais après, avec toutes les interactions et les trucs comme ça qu'il peut y avoir, forcément, ils vont pas te mettre un carnet de 40 pages,
Ouais,
voire plus, hein.
sauf que quand du temps Magic, t'achetais un deck de base parce que t'avais les terrains dedans, et après tu t'achetais des boosters. Enfin, je te parle 95 2000. Maintenant tu fais pas ça quoi, parce que de toute façon t'as pas besoin d'acheter le deck de base. J'ai pas acheté le deck de base, j'ai acheté 4 boosters moi.
C'est vrai. C'est vrai que dans Keyforge, en fait, quand tu achètes ton deck de base, tu peux déjà avoir des combinaisons qui nécessiteraient d'aller voir dans la grosse règle, quoi, entre
En
guillemets.
plus. Donc
Là,
ça tient à la
je suis d'accord.
difficulté du jeu.
Mais ouais, là pour le coup, je sais pas, mais je trouve ça un peu plus excusable du fait que c'est un jeu de cartes à collectionner.
Ok, on passe au point suivant.
Ouais.
Donc on avait noté les raretés spéciales. Alors là, vous allez m'expliquer un peu les Mavericks.
Ouais. Alors
Qu'est-ce
ça
que c'est?
c'est.
Moi j'en ai
Je
pas
fais
eu,
ma
alors je veux pas en parler.
Candide.
Tu sais pas ce que c'est vraiment?
Non, enfin, je connais Maverick, le film avec Mel Gibson, mais je pense pas que ce soit ça le sujet.
C'est
une grande référence
ben,
des
en
années
fait, moi c'est un truc
90-2000.
que j'ai trouvé un petit peu sympa, c'était que de base il t'annonce juste trois raretés dans les cartes, donc t'as les communes, les peu communes et les rares.
Oui.
Mais en fait, il y a trois types de raretés spéciales qui existent et qui sont encore plus rares, quoi. Et donc tu as les Mavericks. Les Mavericks, c'est des cartes qui ont une faction différente. Donc c'est la carte, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais le singe nifleur, par exemple, normalement c'est un indompté. Bah,
Oui.
imagine, tu vas la voir, mais en logos, quoi.
D'accord. Donc en fait,
Donc
c'est
ça,
une
c'est une.
carte dont l'effet change, alors enfin dont les donc, qui
La
garde son effet
famille.
mais qui change de maison.
Ouais, la
C'est
maison
ça.
change.
Donc ça, c'est une Maverick.
OK.
Ça arrive dans certains decks, voilà. T'as
D'accord.
ensuite les rares alternatives. Donc ça, en l'occurrence, c'est par exemple, t'as des cartes en fait qui sont des rares, mais qui peuvent être déclinées. Donc l'exemple que je vais te donner, c'est tu as le maître du 2. Le maître du 2, c'est une créature, quand tu la joues, il tue une créature qui a 2 de force. Et
Ok,
ensuite, donc
oui.
ça c'est une rare. Et t'as la rare alternative, c'est le maître du 3. Lui, il tue une créature qui a 3 de force.
D'accord.
Et t'as le maître du 4 qui tue une créature qui a 4
Ok.
de force. Donc voilà, c'est des versions alternatives de cartes rares.
D'accord.
Et enfin, t'as les cartes fixes. Les cartes fixes, en fait, c'est des cartes qui arrivent forcément en paire avec une autre rare. Donc, t'as une carte rare qui va comboter spécialement avec cette carte fixe. Ça veut dire que dès que cette carte rare est dans le deck, à côté, t'as forcément la carte fixe. C'est pour ça qu'on dit fixe,
Qui est dans le deck aussi.
qui est dans le deck obligé avec. Voilà.
D'accord, parce qu'elle ne fonctionne finalement que qu'en duo.
C'est ça.
Ok.
Donc voilà, je trouvais ça juste rigolo et c'est. Moi, quand j'ai appris ça sur internet, j'ai fait oh putain, mais il y a des trucs secrets et tout. Ça m'a donné un peu ce sentiment là. Bon, après, c'est des secrets pas si secrets que ça, mais c'était sympa quand même.
Et du coup, quel est l'intérêt de la rareté, outre le fait de donner envie aux gens d'avoir des cartes rares ou des Mavericks? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un deck où il y ait des cartes qui combinent ou pas avec d'autres cartes, mais qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément ce côté un peu handicap où on dit cette carte est tellement forte qu'il faut qu'on dise que c'est une rare, parce qu'on ne doit pas la retrouver à plus d'un exemplaire dans un deck.
Bah pour moi c'est ça, hein, l'intérêt de la rareté, c'est justement de d'équilibrer les decks en fait. Je comprends pas ton reproche.
Non, le reproche, pour moi, c'est pas équilibrer le deck. Pour moi, le reproche, c'est que c'est du marketing. Et tu donnes aux gens, envie aux gens d'avoir des cartes en disant, regardez, c'est une rare. Elle est super.
Et tout ce que tu dis, c'est qu'après, ça favorise l'achat compulsif de deck pour obtenir les plus de rares possibles et, par exemple, avoir les 4 cavaliers, ce genre de choses.
C'est ça, c'est ça. Quand ça, tu voyais, justement, on revient à la hype et on revient à ça. C'est les gens se montraient leur deck. Regardez, moi, j'ai les 4 cavaliers, c'est trop fort, quoi.
Je me méprends peut-être, mais moi j'avais compris que Garfield il avait aussi été sur ce terrain du deck unique parce que ça l'avait presque dégoûté le côté très achat compulsif, vente de cartes à des prix exorbitants de Magic. Enfin, peut-être que j'avais mal compris ça, mais professeur, je sais pas, tu vas sûrement nous le dire, mais et du coup si on en arrive exactement alors à cette situation, enfin j'ai pas l'impression que Richard Garfield son objectif ce soit d'avoir conçu le jeu comme ça. Or s'il a mis des rares, c'est que lui il y voyait, si c'est vraiment il est honnête et que son objectif c'était pas d'avoir ce côté ultra finalement société de consommation, et j'achète 200 000 cartes, 250 decks etc pour avoir les plus rares, les plus mieux, alors pourquoi il aurait créé des rares dans le jeu?
Bah pour vendre plus de decks et pour avoir plus d'argent. Parce que non, ça parce reste qu'on... un produit commercial, en fait.
Mais je comprends pas qu'est-ce qui t'incite à acheter plus de decks de fait qu'il y ait des rares, en fait. Parce que ça sert à rien d'avoir toutes les rares, vu qu'il n'y a pas de deck building derrière.
Mais j'achète un deck. Ok, j'achète, ouais. Disons que j'en achète pas un, j'en achète 4. Ils fonctionnent bien ensemble. Ok, Ou ça marche. J'en achète plus, quoi. Enfin, tu vois, j'ai mis 4 paquets de cartes, comme il y avait, il y a quelques temps, il y a des jeux qui sont parus en série très limitée. Ça marchait. Maintenant, il y a toujours. Tu parlais de deck unique. On est dans l'appropriation. C'est mon deck. Et regardez, moi, j'ai les 4 cavaliers. Et on veut ça. Il y a des gens qui veulent ça. Pousser la consommation de dire, ah, mais t'as vu, toi, t'as pas ça, tiens, rachète-en. Et on parlait de loterie. Mais c'est ça aussi. C'est comme les lootbox, c'est, ah, bah, tiens, je vais ouvrir une caisse, ah, bah, j'ai pas ce que je veux, bah, je vais, comme exactement dans Hearthstone, on dit, bah, achète 50 paquets. T'as pas besoin d'acheter 50 paquets. Tu joues, et puis t'as les rares qui tombent. Mmh. Mais les gens qui achètent 50 paquets, c'est qu'ils savent que tous les 15, 20 paquets, ils vont avoir une rare. Et donc, ils vont avoir 3 rares dedans. C'est ça qu'ils achètent. Et du coup, est-ce que ce serait pas aussi le fait de dire, ok, ben moi je vais acheter des paquets pour pouvoir avoir des kits, pour avoir les 4 cavaliers, pour avoir ceci, cela. C'est loin peut-être de l'esprit de Garfield, mais ce monsieur il a pas fait que des trucs pour, enfin c'est un auteur de jeu, il a besoin de manger, il a besoin de vendre.
Ouais, bien sûr.
Pour s'acheter à manger, donc. Ouais.
J'ai pas le sentiment que c'est inhérent au fait qu'il y ait des rares. Parce que là, à chaque fois, tu cites les 4 cavaliers parce qu'en fait.
Parce que c'est que ceux-là que je connais, en fait. Je connais pas les autres.
Il est avéré. Non, mais effectivement, il est avéré qu'apparemment, les 4 cavaliers seraient vachement plus forts que les autres et tout. Mais du coup, c'est à peu près la seule carte qui serait mal équilibrée dans le jeu. Et en vrai, il y a plein de rares que, perso, je trouve assez moyennes, voire pourries, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé au moment du nerf, c'est qu'il y a des gens qui disaient, bon, bah, mon deck. Qui était si fort avant, maintenant il est à mettre à la poubelle. Et je pense qu'il y a des gens qui ont couru après, qui ont acheté les decks. Du coup, il y a un marché noir qui s'est mis en place, un marché gris qui s'est mis en place pour avoir le meilleur deck. Donc c'est juste, moi je suis d'accord en fait dans le fond sur ce que dit Garfield. Il dit on met trop de cartes banales en place. Ok, très bien. On les joue pas parce qu'il y a des cartes qui sont mieux. Bah, arrêtons de faire des cartes mieux et essayons de faire un truc équilibré, mais on retombe dans un jeu qui est où tu vas avoir 20 cartes, 30 cartes, 50 cartes, mais équilibré. Donc on est plus dans cet esprit-là. Donc on retourne vers un truc où t'as plein de choix, mais où t'as des cartes qui sont à la fois pas très bonnes et à la fois des cartes qui sont bien meilleures que d'autres. Du coup, voilà, c'est... On est sur un modèle économique qui est différent de celui d'avant. Même pas, pardon, en fait, on revient sur le modèle économique de Magic où t'as des rares. Mais pourquoi avoir fait des rares? Pourquoi pas des foils non plus?
Oui, il y aurait des foils. Là, je serais d'accord avec toi que ça serait complètement marketing. je vais te prendre un autre exemple. Tu as peut-être déjà joué à Zune.
Il y a très longtemps.
Et Zune, tu vois, c'est aussi un. On pourrait dire que c'est un jeu de cartes évolutif presque, où t'achetais des petites factions, c'était des petits animaux et tu te tabassais entre eux, etc. Et pour le coup, il n'y avait pas de côté aléatoire dans les boosters ou des trucs comme ça. C'est vraiment, t'achètes tes paquets, t'avais toutes les factions, tu pouvais jouer avec. Un petit peu comme Fight ou des choses comme ça. Et pour le coup, dans Zune, je me souviens, enfin, tu as des soldats dans chaque armée, des trucs comme ça, mais t'as toujours un chef et un héros qui sont vachement plus forts que tous les autres, tu vois. Et pour autant, tu vois, c'est pas ça qui te donne envie d'acheter d'autres factions.
Bah non, parce
T'as
que
envie
tu l'as
d'acheter d'autres factions, c'est.
obligatoirement. C'est ça la
Oui.
différence, c'est que tu l'as obligatoirement.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils ont quand même décidé de plutôt que de mettre toutes les cartes équilibrées, ils décident quand même, d'un point de vue game design, tu vois, de mettre quand même une ou deux cartes hyper fortes, parce que c'est ce qui va donner peut-être de la personnalité à ta faction là dans Zune. Et je pense que les rares dans Keyforge, ça va être souvent des gros game breakers. Parfois, c'est là que tu trouves les fameux contres qui permettent de vraiment faire chier une seule faction. Et j'ai vraiment le sentiment que les rares sont plus là pour donner de la personnalité à ton paquet que autre chose. Pour pas que ça devienne juste un jeu algorithmique où t'as juste 36 cartes aléatoires, tu vois.
Je suis d'accord sur ce sujet.
Moi, je l'ai plus ressenti comme ça dans mes decks, en tout cas.
Bon, on va avancer un peu. On va parler de
Quoique,
la
ouais.
seconde édition.
J'ai pas
Alors, je crois
d'avis.
qu'Olivier, toi, t'as aucun avis. Donc, professeur, si tu peux nous donner un peu ton avis.
Très rapidement, hein, parce qu'en fait, j'ai pas joué non plus. Elle
Ah,
vient de
bah
sortir,
voilà.
la seconde édition. Mais c'était juste, ça, je trouvais ça intéressant de l'évoquer, de juste dire que, y a une seconde édition qui est sortie, et je crois que c'est encore un des top ventes chez Philibert, si je dis pas de bêtises. La deuxième édition. On peut vérifier. Ah non, ça va être faussé parce qu'il y a les soldes.
Oui. Je sais pas si c'est
Si, bah si,
spécial.
non, il est top 2. Il est top 2
Donc tu
derrière le
vois, et
nouveau
je pense pas
Elite.
qu'il soit soldé.
Non, il est pas soldé.
Ok, donc moi j'y ai pas joué non plus, j'ai pas acheté de deck, j'ai failli aujourd'hui, puis j'ai été raisonnable.
Mais
Non, c'est.
c'est un argument que je voulais aussi sortir pour te dire, Olivier, que du coup le soufflet est pas si retombé que ça, puisque en fait niveau vente, la seconde édition a l'air de très bien marcher, quoi.
Je sais pas, je pense qu'il y a des, y a, y a des, y a des les ventes des Seigneurs des Anneaux et le jeu de cartes à collectionner. Ça c'est incroyable. Le JCE du SDA. Vous me faites parler du jeu de cartes, bref. Je pense que ça s'est très bien vendu tout le temps. Et on n'en a pas entendu parler. Après, ton indicateur, c'est à un temps T, à la sortie du jeu, tu vas le retrouver. C'est normal. C'est normal. Ça veut pas dire que ça se vend bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au moment de la sortie et qu'il se vend. C'est cool.
Bah,
Maintenant,
il est sorti il y a peut-être un mois maintenant. Hein.
Est-ce qu'on a une idée de la revente de ces jeux? Combien on trouve sur Ocasio? Combien, tu vois,
Ouais, ça, je sais
faut
pas.
être, faut avoir un peu plus de données pour avoir cette idée-là.
Non, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Bon, et maintenant on va parler de la version online ou plutôt de la non-version online.
Bah, écoute, ça réglerait des problèmes, c'est-à-dire le problème de la règle dans la boîte. On n'aurait pas de soucis. Les problèmes de l'errata, on n'aurait pas de soucis. On se poserait plus de questions. Les problèmes de rareté ou de si c'était alors j'allais dire un pay to win, un free to play. On peut imaginer que de toute façon, bah, tu pourrais acheter d'autres decks et t'en es un de départ et si tu joues bien avec, enfin, si tu gagnes des crédits puis t'en rachètes petit à petit, donc ça réglera des problèmes. Peut-être que ça serait éventuellement bien mieux un jeu de cartes en ligne qu'à collectionner, mais est-ce que les gens veulent jouer avec des cartes qui sont rien, ou des paquets de cartes qui sont rien?
Après, dans l'idée, moi, il me semble avoir compris que, en fait, dans la version online, ce sera tes propres decks physiques que tu pourras mettre dedans.
Puisque tu as un code que tu peux scanner sur les cartes. Hein.
Ouais, y a un QR code, je crois.
Voilà, puisque tu as accès, tu peux aller enregistrer ton deck en fait. Et effectivement, une
Voilà,
fois
ouais.
que tu l'as fait, tu as accès à ton deck et tu as la vision de toutes tes cartes d'ailleurs.
Moi, j'avoue que j'attends quand même avec beaucoup d'impatience cette version online parce que. Bah depuis que je m'étais mis à Hearthstone, je joue beaucoup plus à des jeux de cartes à collectionner en ligne que physique. Et d'ailleurs là, je me suis mis à Magic Arena.
Il paraît que c'est très très
C'est
bien.
très très bien. Ouais. Mais ça m'a fait rejouer à Magic, donc mon temps libre n'aime pas ça. Mais du coup, je pense que quand ça sortira, je m'y mettrai vraiment beaucoup plus sur Keyforge. Parce que moi, j'aime bien aussi avoir des. C'est ça que j'aime bien dans les jeux en ligne, c'est les rankings, tu sais, comment on dit en français,
Classement?
Les classements?
classement, ouais, voilà. J'aime bien être classé et tout, et monter, escalader des trucs, des classements, jouer vraiment en mode très très sérieux avec un espèce d'enjeu qui va te classer ensuite par rapport aux autres, quoi. C'est le côté compétiteur.
Ouais, je t'imaginais pas comme ça, tu vois.
Bah, comme je disais, à Hearthstone, en fait, j'ai même fait des tournois. Et je trouve ça trop trop bien, les tournois d'Hearthstone, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une sensation de jeu différente.
Ok, vous avez deux choses que vous voulez ajouter ou pour conclure votre position?
On va finir par une note positive, je vous propose de finir sur une note plutôt bonne. Pour moi, en fait, KeyForge, c'est un peu comme le jeu vidéo et la génération procédurale des maps ou des planètes. Au final, bah, c'est mieux quand c'est des gens qui créent les choses et qui pensent et qui organisent en fait des jeux où tout est équilibré et tout est, comme tu disais pour Zune, pensé pour donner un plaisir qui est équilibré. On aura plus ou moins le même plaisir. T'auras pas des fois des gens qui sont super contents, super emballés, ou des gens qui sont super négatifs. Mais moi, ça donne constance. Et voilà, donc, c'est en partie pour ça que j'ai pas trop aimé KeyForge.
Ok, tu veux rajouter un mot, le professeur, ou pas?
Non, bah écoute, je vois ce que tu veux dire, et pour le coup, bah moi, dans les jeux vidéo, j'aime bien les roguelikes. Voilà, c'est...
Mais quel rapport? Mais quel rapport?
Bah parce que tu parles de génération procédurale.
Ouais, ok.
Ah bah si, les roguelikes, le principe c'est que c'est de la génération procédurale.
Oui, c'est de la génération procédurale, effectivement.
Et justement, tout l'intérêt de ces jeux-là, c'est le côté... En fait ça, c'est comme dans les hack and slash, quand t'as des loots aléatoires dans les coffres, hein, tu sais, c'est vraiment le côté un peu découverte, et t'as envie de voir ce que la partie suivante te donnera, quoi. Sauf que là, dans KeyForge, tu as envie de voir qu'est-ce que les match-up entre les decks vont donner.
Alors, parlons-en. Est-ce que vous avez une heure de plus?
Non.
Parce que je me suis mis à Cadence of Hyrule. Et avant, j'avais Crypt of the Necrodancer. Et je ne suis pas d'accord. Ok, le premier niveau, c'est jamais le même, mais c'est toujours le même. T'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Le premier niveau, c'est les mêmes rythmes. Les salles sont pas agencées de la même façon, mais t'as les mêmes rythmes, t'as les mêmes créatures, t'as les mêmes patterns. Et du coup, effectivement, ton expérience de jeu sera différente à chaque fois, mais sera globalement la même.
Après, t'as plusieurs échelles dans le curseur du roguelike aussi.
C'est ça. Mais je crois qu'il faut qu'on s'en reparle dans un autre épisode.
Moi, en parlant de jeux vidéo, là, en parlant, ça m'a fait penser un peu à la hype qu'il y avait eu sur No Man's Sky, je ne sais pas si vous y avez joué,
oui,
quand il est sorti.
C'est ça. Ouais, c'est ça que je
pensais.
Sur
cet aspect, sur cette idée d'avoir, on pouvait en fait être, on pouvait jouer on était en ligne, mais on pouvait ne jamais se retrouver tellement il y avait de planètes en fait possibles à explorer, et un peu sur cette espèce de fantasme de l'algorithme qui te, tu vois, qui est presque étouffant pour les êtres humains, quoi, qu'on n'arrive même plus à penser concrètement. Et No Man's Sky, il y a un jeu qui avait un peu déçu aussi, hein, quand il est sorti, qui a été beaucoup patché, je crois.
Un peu beaucoup, même.
un peu complètement, même.
On se retrouve avec...
C'est plus le même jeu aujourd'hui, d'ailleurs.
Chaque partie est individuelle, enfin, chaque joueur a sa propre partie. Voilà, voilà.
Écoutez, merci messieurs. Il n'y a pas eu d'insultes. Hein. Bon, j'ai pas été toujours très objective. Je suis pas capable d'être complètement.
Et tu veux nous donner ton avis quand même ou pas?
Bah écoute, oui, moi je peux le donner. J'avais pas joué à Magic, ou tellement peu que c'était vraiment anecdotique. Donc j'avais pas forcément d'expérience dans les jeux de cartes, à part Horror Arkham, Seigneur des Anneaux. Et moi je trouve que c'est un jeu, ce que j'ai apprécié dans KeyForge, c'est vraiment que c'est une prise en main immédiate, c'est très intuitif. Moi j'ai jamais lu la règle du tout, en fait je trouve qu'on est très bien guidé, c'est assez plaisant, et moi j'aime beaucoup le côté de l'aléa, enfin de la surprise, j'aime bien piocher les decks au hasard, je trouve que ça fait partie du petit frisson que t'as quand tu commences ta partie et qui rend le jeu agréable. Après moi je ferai jamais de tournoi, donc j'ai pas, tu vois, je vais pas me poser des questions de savoir si j'ai un deck pauvre ou pas, je m'en fous un peu complètement de perdre ou pas, donc moi, je reste assez fan, et j'y rejoue. Enfin, on fait des parties régulièrement, donc voilà. Donc c'est plutôt. Et j'aime bien le côté des maisons. Ce que tu disais, ce que t'expliquais, le fait qu'on est obligé de faire vraiment des choix sur ce qu'on va jouer, parce qu'on ne peut. On est tenu par sa main et par les maisons, la maison qu'on décide de jouer. Voilà.
Cette mécanique-là, faudrait trop la mettre dans d'autres styles de jeu, genre un jeu de gestion, quoi. Mm. Je serais curieux de voir ce que ça pourrait rendre. Et d'ailleurs, c'est intéressant ton avis, parce que toi, si je me rappelle bien, t'étais pas du tout hypé, même ça te faisait un peu peur, le jeu, avant.
Oui, moi je me rappelle dans le hors-série Paris, d'ailleurs on en avait parlé, et moi c'est plutôt le concept, enfin le côté très marketing en fait, que je trouve un peu pénible. C'est ce que Olivier il a noté, hein, c'est le fait de dire c'est un deck unique, c'est ton deck à toi, c'est tu es le centre du monde, que je trouve toujours un peu compliqué. Après, dans la réalisation, je suis pas tant choquée que ça, mais c'est vrai que moi je me connais, je suis capable d'acheter beaucoup de decks, donc ça m'énerve parce que je sais que je serai la première victime de ce genre de truc, quoi. Mais j'avais envie d'y jouer parce que je pense que c'était aussi pour des joueurs comme moi qui n'ont pas une grosse expérience. C'est un très bon moyen pour rentrer dans ce genre de type de jeu, tu vois, de jeu de cartes. Mm. Et, okay, ouais. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment aussi une courbe d'apprentissage. Vraiment, quand tu démarres, tu as une courbe d'apprentissage. Tu progresses, tu sens que tu progresses, que tu vois mieux les combos, que tu vois mieux comment exploiter ta main. Donc ça, je trouve que c'est aussi très très agréable.
Ouais, bah comme dans Magic, mais peut-être plus accessible, quoi. Du coup.
Voilà. Voilà, moi je sais que Magic, je suis vraiment passé à côté parce que au moment où c'est sorti, j'aurais tout à fait pu, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Enfin, je n'ai pas de regrets parce que je me dis financièrement, j'ai pas de regrets. Donc on va s'arrêter là. Donc je vous remercie encore. Et puis que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et on vous renverra bien sûr aux autres épisodes dans lesquels on a évoqué Keyforge. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook ou par le mail sur le site Proxy Jeu. Et puis surtout, notez-nous sur Apple Podcast, mettez-nous des commentaires et parlez de nous autour de vous. Ouais, 5 étoiles obligatoires.
Donnez de la thune sur Tipeee.
Et voilà, et ça, franchement, je ne dirai jamais assez. N'hésitez pas à tiper, c'est vraiment une des meilleures choses que vous pourrez faire pendant vos vacances, si vous nous écoutez pendant les vacances. En attendant, jouez bien.